Vous écoutez la deuxième saison de Watt, Objectif 2050, le podcast qui explore les solutions énergétiques pour demain. Épisode 6, l'autoconsommation collective de l'énergie à revendre. Je m'appelle Margot, je suis journaliste spécialisée dans les questions environnementales. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'autoconsommation collective ? Je ne parle pas des panneaux solaires sur la maison de votre voisin, mais bien de production d'électricité décarbonée et locale au niveau d'un immeuble, d'une usine ou de tout un quartier. Pour être honnête, je ne connaissais pas très bien le sujet, alors j'ai fait mes petites recherches. L'autoconsommation collective, comme son nom l'indique, bénéficie au collectif et pas seulement à un foyer. Elle peut même être accessible à des locataires. En 2018, d'après Enedis, il existait 6 opérations de ce type en France, pas énorme. En août 2023, on en comptait 246, 40 fois plus en seulement 5 ans. C'est prometteur. J'avais envie d'en savoir plus. Comment ça fonctionne exactement l'autoconsommation collective? Qui en bénéficie? Est-ce que c'est possible partout? Pour mieux comprendre, je me suis rendue à Lille, où une opération d'autoconsommation collective est testée depuis un an dans un logement social. J'ai retrouvé au pied de l'immeuble Aurélie Botquin, experte innovation chez Partenor Habitat. Dans l'ascenseur, elle m'a expliqué que sur les 50 locataires, 6 se sont portés volontaires pour participer à l'opération d'autoconsommation collective.
Bonjour,
merci de nous recevoir.
Cydalia fait partie de ces volontaires.
Il y avait eu une réunion, donc j'avais participé à cette réunion. Directement, j'ai rempli le formulaire par derrière.
Et pourquoi vous avez fait ça?
Bah, je me suis juste fait une expérience et puis ça reste une économie, donc surtout en ces moments-là où je pense qu'on en a tous besoin. Donc là, sur mon application, je vois qu'en 2022, je suis à 3232 kWh et en 2023, à 3053 kWh.
Ça reste une petite économie, mais comme on a pu l'entendre, un nouveau membre s'est invité cette année dans la famille. Une famille qui n'a pas mis en place d'éco-gestes. Aurélie Botquin en profite pour donner quelques conseils à Cydalia.
Vous voyez, en général, vous avez un pic de consommation en fin de matinée, par exemple. Si cette consommation, je ne sais pas si ça correspond à un lave-linge ou à un lave-vaisselle, mais si on pouvait la décaler sur la période, par exemple, midi 14h, où les panneaux photovoltaïques produisent le plus, ça vous permettrait peut-être d'économiser encore davantage.
Aurélie Botquin me le disait, avec une bonne pratique, les locataires pourraient baisser leur consommation d'électricité de 12% par an. Ici, tous n'ont pas voulu tester l'opération d'autoconsommation collective dans leur appartement. En revanche, lorsque les panneaux photovoltaïques produisent de l'énergie, ils couvrent 100% des besoins en électricité des parties communes. Le reste contribue à baisser la facture énergétique des volontaires à hauteur de 10% de leur consommation électrique.
Ces parties communes, elles sont alimentées en électricité pour l'éclairage, pour l'ascenseur, là, que vous entendez, et également pour tout ce qu'on appelle les auxiliaires, donc les pompes de circulation nécessaires aux équipements techniques. De ce fait-là, tous les locataires de l'immeuble bénéficient d'une diminution de leur charge au travers des consommations électriques des parties communes.
J'ai ensuite suivi Aurélie au sous-sol pour aller voir la voiture électrique en autopartage, elle aussi.
Les panneaux photovoltaïques, l'énergie qu'ils produisent, sert aussi en partie à alimenter en énergie électrique, le véhicule partagé. On a utilisé une borne particulière qu'on appelle une borne bidirectionnelle qui va dans les deux directions. Donc à la fois, l'énergie électrique peut aller vers le véhicule pour être stockée et servir au déplacement. Et à la fois, cette énergie peut aller dans l'autre sens, du véhicule vers le bâtiment. Et donc, on a une possibilité de stocker grâce à ce véhicule électrique, à la batterie du véhicule électrique.
On a repris notre visite et 9 étages plus haut, on s'est retrouvés sur le toit de l'immeuble.
C'est ici que tout se passe, où on a les équipements techniques qui permettent la production d'énergie renouvelable et locale, avec 50 panneaux photovoltaïques de 320 watts crête chacun.
Ce qui équivaut à 28 000 kWh par an et donc 10% de la consommation d'électricité des 6 foyers volontaires. Aurélie Botquin me le disait, c'est le tout premier projet d'autoconsommation collective chez Partenor.
Avant tout, ça a consisté à une étude de faisabilité pour voir si le bâtiment il était opportun ou pas pour poser des panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'on va pouvoir avoir de la production ? Est-ce qu'il y a de la place en toiture? Est-ce qu'on va être suffisamment bien exposé? À côté de ça, il y a aussi des contraintes techniques de raccordement de ces panneaux à l'installation électrique. Mais il faut quand même passer par les services d'Enedis pour qu'ils valident la conformité de l'installation.
Au moment où on parle, il y a du soleil. Je me dis que les panneaux doivent bien fonctionner. Et je pense à Sidalia qui a peut-être lancé une machine à laver pour en profiter. Mais je me demande, en plein mois de novembre, on fait comment ?
De toute façon, le réseau est là pour pourvoir au complément de besoins en électricité. Donc c'est pour ça que le fournisseur d'énergie vient compléter la partie production locale en injectant de l'énergie issue du réseau en fonction des besoins.
Mais c'est quand même mieux quand il y a du soleil.
Il faut qu'on trouve une façon justement de faciliter un petit peu cette lecture-là auprès des locataires, pas que par la météo, mais peut-être avec un écran ou un bilan hebdomadaire par exemple, ou un bilan plus instantané, hein. Ça se travaille, mais il y a des pistes encore.
Là, j'ai l'image du marin qui passe à la capitainerie regarder le bulletin météo pour savoir s'il peut prendre la mer.
Il y a de ça, il y a peut-être un peu de ça, oui.
C'est bon. La mer est calme, on peut aller voir Mathieu Mez. Il est le directeur du développement territorial de la métropole européenne de Lille chez EDF et a travaillé sur ce projet d'autoconsommation collective. Il me le disait, le bilan est très positif.
Il y a une performance écologique de cette expérimentation, puisque le bilan carbone, c'est l'équivalent de l'absorption de 67 arbres pendant une durée de 30 ans. C'est calculé avec les standards des bilans carbone, que ce soit le kilomètre parcouru par un véhicule électrique, l'apport des panneaux photovoltaïques. On a fait le bilan global de l'opération et ça nous a donné cette comparaison. Et cette expérimentation contribue à apporter la transition écologique et énergétique au sein d'un bailleur social, de permettre aux locataires de baisser leurs factures et donc de laisser personne sur le bas-côté de la transition écologique. Et c'est une des missions d'EDF, lutter contre la précarité et réussir à faire baisser la consommation de l'ensemble des citoyens pour une meilleure utilisation et puis pour un meilleur pouvoir d'achat.
Mathieu Mez me le disait, le prochain projet sera d'étendre l'autoconsommation collective à tout un quartier.
Comment ça marche ?
Si je comprends bien, que ce soit pour une maison, un immeuble, une usine ou un quartier, le raccordement au réseau public de distribution est indispensable à une opération d'autoconsommation. Comment ça fonctionne ? Eh bien, l'énergie est produite localement et elle est distribuée par le réseau. Les personnes qui y participent doivent d'ailleurs se trouver assez proches les unes des autres. Le périmètre varie de 2 à 20 km. Les participants doivent définir au préalable les règles de répartition de l'électricité produite entre eux. Dans l'immeuble à Lille, par exemple, la personne morale organisatrice de l'opération est le bailleur social. C'est donc lui qui définit la clé de répartition qui permet d'affecter la production locale aux consommateurs de l'opération. Ici, les 6 volontaires. L'autoconsommation collective fonctionne avec de l'énergie renouvelable, une énergie intermittente. La nuit, les panneaux solaires ne produisent pas d'électricité. C'est à ce moment-là que le réseau prend le relais. À l'inverse, il peut arriver que les panneaux surproduisent. L'excédent est alors évacué vers le réseau. Dernier point, la facture d'électricité. À l'aide des clés de répartition transmises par la personne morale organisatrice et des courbes de charge qui représentent la consommation d'électricité sur des périodes précises, Enedis calcule pour chaque consommateur les kilowattheures qui relèvent de l'opération et ceux qui relèvent du fournisseur. Grâce aux données transmises par Enedis au fournisseur, celui-ci peut établir une facture qui tient compte de la participation à l'autoconsommation collective. Et, petit bonus, cette production locale permet de faire des économies d'énergie. Ça n'a pas l'air si compliqué finalement l'autoconsommation collective, mais je me demande quand même, qui peut y avoir accès ? Je me suis donc rendue dans le quartier de la Défense pour rencontrer Jean-Christophe Witschker. Il est le directeur marketing et expertise des offres du marché d'affaires EDF. Je lui ai demandé si l'autoconsommation collective s'adressait à des personnes en particulier.
Alors l'autoconsommation collective, finalement, ce dont il y a besoin, c'est d'une collectivité, d'un ensemble de personnes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rencontre dans plein de situations. Je peux vous donner quelques exemples. Un habitat social sur lequel on va avoir des panneaux sur le toit Et puis, il y a un certain nombre de consommateurs, de résidents, voilà, qui vont bénéficier comme ça de la production qui est sur le toit de leur immeuble. Un autre exemple, c'est celui d'une petite commune qui dit, bah voilà, moi je vais équiper deux ou trois bâtiments communaux avec des panneaux photovoltaïques et je veux en faire bénéficier l'ensemble des bâtiments de la commune. Et dans le domaine industriel, ça marche aussi. Si vous prenez un site avec un entrepôt sur lequel on met des panneaux photovoltaïques, et puis une usine, le parking de l'usine sur lequel vous pouvez avoir des bornes de recharge, et bien ma foi, les panneaux solaires qui sont sur le toit de l'entrepôt peuvent permettre d'alimenter l'usine ou une partie des besoins de l'usine, mais aussi les bornes de recharge qui sont sur le parking.
Mais combien ça coûte au juste ?
Si on met de côté l'investissement dans le moyen de production pour lequel il y a des dispositifs d'aide.
Effectivement, il y a plusieurs aides, comme la prime à l'investissement. La commission de régulation de l'énergie organise aussi régulièrement des appels d'offres pour les projets d'autoconsommation.
Les coûts de l'opération, ils sont très variables et dépendent du nombre et de la nature des participants. Mais si on prend une opération simple, comme une collectivité qui partage sa ressource entre différents bâtiments de son patrimoine, les coûts de montage et de gestion sont vraiment faibles. Hein. C'est de l'ordre d'une dizaine d'hommes-jours par an. Et ce dont on a principalement besoin, c'est d'une plateforme digitale. Par exemple, EDF, on a un service qui s'appelle Communities pour ça, qui permet de faciliter le pilotage de l'opération pour un abonnement qui est de l'ordre de quelques milliers d'euros par an. En fait, ce que fait Communities, c'est d'un côté prendre en compte les différents moyens de production qui participent à l'opération, les différents sites de consommation, et à définir une règle d'affectation, de répartition de la production entre les consommateurs.
Mais je me demande, si l'autoconsommation collective est vouée à se multiplier, comment EDF gère cette production d'électricité décentralisée et décarbonée ?
Déjà, le besoin d'électricité, ce qu'on sait de manière certaine, c'est qu'il va augmenter. Si je prends un exemple, si vous avez une chaudière gaz chez vous, il est fort à parier que dans 10 ans, vous aurez une pompe à chaleur à la place. Voilà. Et ça, ça va se faire très généralement. Et en parallèle, il y a effectivement de plus en plus de clients qui souhaitent accéder à une production d'énergie verte et locale, par exemple sous forme d'autoconsommation collective.
Et ça, justement, ça a quel impact sur vous, EDF ?
Bah, ce qu'on observe, hein, c'est que c'est une tendance de fond. Et nous, on propose des solutions. Donc, on est présent pour aider nos clients à installer des moyens de production renouvelables, par exemple avec EDF ENR, qui est un des leaders de l'autoconsommation en France. Bien entendu, on fournit le complément d'électricité là où il y en a besoin. On est fournisseur d'électricité depuis bien longtemps maintenant. Et puis enfin, on propose des nouveaux services, des services numériques qui permettent de piloter les opérations d'autoconsommation collective. Donc, en synthèse, on a nos métiers traditionnels de producteurs nucléaires et hydrauliques, mais on est également très présent sur la production d'électricité renouvelable.
Donc, si je comprends bien, toutes les énergies renouvelables sont les bienvenues. L'autoconsommation collective, aujourd'hui, reste assez marginale, mais a priori, elle est vouée à se développer. Pour essayer de comprendre sa trajectoire, j'ai contacté Blanche Lormeteau. Elle est juriste spécialisée en droit des énergies renouvelables et chargée de recherche au CNRS. J'ai vu qu'elle avait coécrit avec François-Mathieu Poupeau ce livre « L'autoconsommation collective d'électricité en France, émergence d'une innovation contrariée ». Dans ce livre, il est question, à un moment, de lien au territoire. Alors, dans une note vocale, je lui ai demandé quel était le rapport.
D'abord, le développement d'autoconsommation collective en électricité s'inscrit dans un contexte plus général, assez perceptible depuis le début des années 2000, en France comme en Europe, contexte d'un recours croissant aux sources d'énergie renouvelables dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. La mobilisation de ces sources est corrélative aux aspirations citoyennes à une réappropriation des modes de consommation et de production de l'énergie, ainsi qu'au souci de mieux valoriser les ressources du territoire. Le territoire en tant qu'espace de production et de consommation, c'est-à-dire le lien avec la ressource, et le territoire en tant que lieu de décision, c'est-à-dire celui qui mobilise des acteurs locaux, publics comme privés. Alors l'autonomie énergétique n'est pas du tout l'objectif de l'autoconsommation collective en électricité, ni de ses aspirations citoyennes. L'électricité transite toujours par le réseau de distribution d'électricité. L'objectif, c'est bien celui d'un partage, d'une électricité qui va être perçue comme une valeur, une donnée territoriale qu'on va pouvoir voir, qu'on va pouvoir connaître, parce qu'on en perçoit les lieux de production, et donc on va pouvoir s'approprier la façon de la consommer.
Ce partage de l'énergie est intéressant. J'imagine que ça change aussi le rapport entre le producteur et le consommateur. Je pose la question à Blanche Lormeteau.
La notion de partage ne renvoie pas à une gratuité de l'électricité fournie, mais renvoie à la façon dont on a envisagé le rapport à ce bien qu'est l'électricité produite localement. L'autoconsommation collective va vraiment permettre de lier au sein d'une personne morale organisatrice deux acteurs territoriaux qui ne pouvaient se rejoindre, le producteur et le consommateur. L'idée, c'est bien de créer une relation juridique matérialisant ce lien direct producteur-consommateur qui permet finalement d'estampiller, en quelque sorte, l'électricité consommée de deux caractères, vert et local. Et c'est ce lien très nouveau et la structuration d'une personne morale organisatrice qui constitue une véritable révolution juridique, puisque le consommateur ne pouvait jusqu'alors qu'être en lien avec un fournisseur et ne pouvait finalement revendiquer la consommation d'une électricité locale. Là, désormais, on va réfléchir au niveau local, au niveau territorial notamment, à travers cette instance de gouvernance collective que peut être la personne morale organisatrice. On va réfléchir à la façon dont peut être produit, dont peut être consommée l'électricité désormais territoriale, et donc dont on va finalement valoriser les ressources propres au territoire. Ressources qui sont d'abord effectivement les infrastructures de production, mais également, désormais, les ressources libérées par des comportements de consommateurs devenant des acteurs de l'usage de cette production locale.
Je me demande à quoi il pourrait bien ressembler le futur de Blanche Lormeteau. Allez, je lui propose un saut en 2050. Ça y est, on y est.
En 2050, j'habite dans un chouette quartier. On a créé une communauté d'énergie locale dans laquelle finalement, on a découvert qu'on pouvait partager l'électricité. Électricité qui, chez nous, est produite sur le toit des bâtiments publics. Donc là, c'est l'école et le collège. Et la communauté a investi dans ce service de mise à disposition des véhicules électriques partagés. Chez moi, en plus, il fait bon, été comme hiver, parce que ma communauté d'énergie s'est dotée d'un réseau de chaleur et de froid qui fonctionne majoritairement aux énergies renouvelables et de récupération. Ainsi, on a fait un contrat avec le data center local pour récupérer sa chaleur fatale. Notre prochain projet, c'est d'investir dans une ferme en agrivoltaïsme, une ferme qui est en bordure de notre ville, pour mêler désormais la production alimentaire et la production d'énergie au niveau local. On a vraiment hâte de s'y mettre.
Vous venez d'écouter le 6e épisode de la saison 2 de Watt, Objectif 2050, le podcast qui explore les solutions énergétiques pour demain. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.